petite présentation. Donc, on va pouvoir rentrer du coup tout de suite dans le vif du sujet. D'abord présenter donc la réalisatrice de Proxima, Alice Winocourt. Certains disent Winocourt, ou Winocourt, moi j'ai dit Winocourt. Alice Winocourt, elle naît en 1976. Elle étudie d'abord le droit pénal, elle veut devenir avocate, et puis finalement elle se retrouve à l'école de la Fémis, une des plus grandes écoles de cinéma de France, dont elle sort diplômée en 2002. Elle se consacre d'abord au scénario, et puis très vite, elle ressent le besoin de mettre elle-même en image ses films, les films qu'elle écrit. Et puis elle va travailler aussi sur pas mal de scénarios d'autres films en collaboration. Elle a vraiment un univers, alors je vous ai mis du coup la liste de ses longs-métrages. La particularité qu'elle a, c'est qu'elle choisit à chaque fois des univers très différents, mais des choses, des univers extrêmement prononcés et qui l'inspirent. En fait, elle dit elle-même qu'elle a besoin, pour parler d'elle, pour parler de ses problématiques, de se plonger dans des univers très lointains et très différents. Donc elle commence en 2012 avec Augustine, avec Vincent Lindon notamment. En fait, c'est son projet à la base, c'est son scénario de fin d'année d'études à la Fémis. Elle en fait du coup un film, Augustine avec Vincent Lindon, qui se passe dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris au début du siècle. Et c'est la relation entre Augustine, une jeune femme atteinte d'hystérie, qui lit une relation un peu complexe avec le professeur Charcot, qui sera le premier à démontrer les effets notamment de l'hypnose sur la maladie. Donc dès le début, elle explique comment elle s'est plongée, déjà dès Augustine, elle se plonge, on va en reparler après, mais dans des univers de manière quasi documentaire. En 2015, alors elle va coécrire un scénario d'un film que vous avez probablement vu, qui s'appelle Mustang, qui représentera la France en 2015 aux Oscars et qui gagnera aussi le César du meilleur scénario avec Mustang. Et la même année, elle sort le film Maryland avec Matthias Schoenhardt et Diane Kruger sur un ancien Marines qui se reconvertit en garde du corps, qui va protéger la femme d'un diplomate et qui est hanté par des troubles post-traumatiques. Donc en 2019, Proxima, on va en parler. En 2022, Revoir Paris, avec Virginie Efira et Benoît Magimel. Là aussi, on parle de troubles post-traumatiques, avec une femme qui a échappé à un attentat à Paris. Elle explique elle-même qu'Alice Winocourt, qu'elle s'est inspirée de l'histoire de son frère qui a échappé aux attentats du Bataclan, et donc elle s'est intéressée à ce qu'est la vie d'un survivant justement d'un attentat, tous les troubles pour reconstruire sa vie ensuite. Et puis en 2025, je crois qu'il n'est pas encore sorti, mais elle travaille sur son prochain film Couture avec Angelina Jolie notamment. Elle a une approche quasi documentaire, elle aime se mettre totalement en immersion dans des univers à chaque fois très marqués, très particuliers. Elle explique que pour Proxima, c'était une espèce de fascination d'enfance qu'elle avait pour l'espace et elle avait envie d'écrire autour de cet univers. Je vous conseille juste en passant, on la trouve sur Canal+, une émission qui dure 50 minutes, qui s'appelle Profession scénariste, et qui réunit autour d'une table ronde tous les plus grands scénaristes français actuels, et elle en fait partie. C'est assez intéressant parce qu'elle parle pas mal de son travail, la façon dont elle écrit. Donc elle a une façon comme ça de parler de l'intime en abordant des univers très particuliers. Donc ici, Proxima, je pense que vous l'avez vu, il y a une base documentaire très forte pour accompagner la fiction. Donc pour ce film, elle a, avec ses équipes, elle a passé énormément de temps dans tous les lieux que vous voyez dans le film, puisqu'elle a travaillé pendant 2 ans en immersion, à la fois à l'Agence spatiale européenne, à Star City à Moscou et à Baïkonour, pour pouvoir montrer tout cet univers. Donc elle a à la fois passé du temps, elle a interviewé énormément d'astronautes et elle a rencontré aussi notamment Thomas Pesquet, qu'on voit dans le film, donc au début des repérages, qui est devenu un petit peu le parrain du film. Et Proxima, c'était aussi d'ailleurs le nom de sa mission spatiale en 2016. Donc c'est des lieux justement pour renforcer cette idée de cinéma quasiment presque documentaire, ce sont tous les lieux que vous voyez d'entraînement, etc., ce sont les vrais lieux qui, pour la plupart, sont très très peu filmés, parce qu'ils sont soumis à beaucoup d'autorisations. C'est vraiment, ça a été un travail visiblement de longue haleine. Le tournage a duré 47 jours, avec donc de nombreuses contraintes, puisqu'évidemment les sites étaient en activité, donc il fallait s'adapter aux agendas des astronautes, il fallait énormément d'autorisations de la part de la Russie notamment pour pouvoir avancer. L'actrice Eva Green aussi, que je trouve assez incroyable dans ce film, elle aussi a passé beaucoup de temps, elle a été entraînée par les mêmes entraîneurs que vous voyez dans le film, donc elle a vraiment donné de sa personne, et puis il a aussi fallu réunir un casting international, hein, puisqu'on a des Français, des Américains, des Russes, des Allemands. Donc il y a eu un très très gros travail pour accentuer le réalisme de ce film. Alors Eva Green n'a pas pu tout faire, il y a quand même des choses qui sont évidemment de la fiction et qui sont truquées, notamment la scène dans la centrifugeuse. Moi, j'avoue que quand j'ai vu le film, je pensais que c'était réel, mais en fait non, elle n'a pas vraiment pu faire la centrifugeuse. J'ai quand même noté que quand on est dans une centrifugeuse, on reçoit l'équivalent du poids de 4 éléphants sur le corps quand même. Ils n'ont pas voulu prendre le risque. Et pareil pour les scènes de scaphandrier dans la piscine, où les visages en fait de Matt Dillon et d'Eva Green sont incrustés, puisque les combinaisons pèsent 120 kg. C'était un entraînement un petit peu trop difficile pour les comédiens. Mais en tout cas, il y a ce souci de réalisme. Et Alice Minocourt raconte aussi que, chose assez intéressante, mais à posteriori, en fait, elle s'est aperçue que des choses qu'elle avait écrites dans son scénario se sont vraiment passées pour des astronautes, notamment quand Sarah, le personnage de Sarah, décide de briser sa quarantaine pour aller voir la fusée avec sa fille. Elle a appris qu'en fait, par exemple, une astronaute américaine, Anna Lee Fisher, avait fait exactement la même chose pour aller passer Halloween avec ses enfants et avait brisé sa quarantaine. Sa quarantaine. Et aussi l'astronaute Anton qui enregistre des sons de nature pour les emmener avec lui dans l'espace. C'est quelque chose que plusieurs astronautes ont fait aussi pour essayer de ne pas se déconnecter totalement de la Terre. Donc il y a beaucoup de choses aussi qu'elle a imaginées et qui ont vraiment eu lieu. Je vous propose d'écouter une courte interview d'Alice Winocourt. Je trouve ça toujours intéressant de quand même écouter un peu la parole des cinéastes. Elle va un peu reparler de ce que j'ai dit, puis elle va annoncer aussi des choses dont on va parler un peu plus tard.
5, 4, 3, 2, 1.
I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars, and yet here we are making last preparations for the long journey.
J'ai toujours été intéressée par l'espace, mais c'était petite aussi enfant, mais c'était plus une sorte de fascination poétique. Et quand j'ai commencé à découvrir un peu cet univers, à faire des recherches, je me suis rendu compte qu'en fait toute cette préparation, toutes ces années d'entraînement, tous ces efforts en fait que les astronautes faisaient pour quitter la Terre, c'était quelque chose qu'on voyait très peu finalement dans les films. Et ce qui m'a frappée quand j'ai commencé à rencontrer des astronautes, mais aussi des entraîneurs, enfin tous ces gens à Cologne, mais aussi à Star City, à Baïkonour, c'était de voir à quel point l'espace était plutôt en fait faire l'expérience de la fragilité humaine, la fragilité du corps humain, en fait, de voir les difficultés enfin, auxquelles les astronautes étaient confrontés et à quel point il y avait cette idée d'arrachement de la Terre, à quel point finalement on était terrien.
Tu savais que ta maman allait partir un jour. Ça te fait très peur, un peu peur.
Ce que je trouvais intéressant avec ce personnage d'astronaute, c'était que finalement cette problématique de la séparation avec sa fille pouvait résonner avec sa problématique de séparation avec la Terre. Donc il y avait cette métaphore qui n'est pas que le fait de mon imagination, puisqu'on dit bien aussi la Terre-mère, et que dans le protocole russe de lancement de la fusée, il y a dans les étapes du protocole, il y a la séparation ombilicale avec la Terre.
T'es là ? Ça va pas, non, tu n'arrives pas !
Moi, ça m'intéressait aussi de montrer un personnage de super-héroïne, mais qui est aussi mère. Parce que j'ai l'impression que les super-héroïnes au cinéma sont toujours montrées sans enfants, alors que la réalité de la vie des femmes, c'est qu'elles ont des enfants. Je me disais, c'est intéressant de montrer comment en fait s'organise la vie de ces femmes, mais aussi les dilemmes que ça peut créer. Et encore une fois, il y avait l'idée de découvrir ce monde inconnu de l'espace, mais aussi de parler de quelque chose qui pourrait aussi toucher les autres femmes, puisqu'évidemment le monde de l'espace, c'est un monde un peu, aux États-Unis, bigger than life, plus grand que nature, mais ce qui se passe finalement dans ce monde est quand même assez proche de ce qui se passe dans la vie de tous les jours, la vie terrienne, où, des femmes qui finalement sont dans des carrières compétitives ou dans les sociétés, ou qui finalement doivent concilier leur rêve, leur carrière, les exigences de cette carrière et le fait d'être là pour leurs enfants et les difficultés que ça crée.
Voilà. Bon, on a déjà abordé plusieurs choses dont on va parler dans cette présentation. Et elle en a dit quelques mots sur à la fois l'idée de la séparation et aussi de la libération. Ce qui est, je trouve, très bien fait, qui est écrit de manière très subtile dans ce film. Pour rappel, déjà Proxima, qui est, en latin veut dire le plus récent ou le plus proche ou le suivant. C'est donc l'étoile aussi qui est la plus proche de nous après le Soleil, donc Alpha Centauri C ou Alpha du Centaure. Et puis donc, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi le nom de la mission de Thomas Pesquet plus récemment. Ici, le film se construit donc autour de l'idée de l'éloignement progressif de la mer, qui met donc en parallèle la séparation d'une mère et de sa fille, et puis donc, comme le disait la réalisatrice, d'une mère aussi et d'une femme avec la Terre. Ce processus de séparation, quand on regarde bien le film, il s'effectue en différentes étapes. En fait, Alice Winocourt a écrit vraiment le scénario, elle a construit son scénario en suivant les étapes de la séparation mère-fille à la manière d'une fusée qui s'arrache vraiment de la pesanteur et qui se débarrasse de ces différents éléments propulseurs. On le voit aussi dans le film à la fin, quand la fusée décolle, avec les différentes étapes. Et ici, c'est un peu ce qui se passe sur le parcours de ces personnages. On a d'abord, évidemment, le bouleversement de la routine, parce qu'on voit au départ cette femme qui s'entraîne, et puis sa vie de mère avec sa fille, et l'annonce donc du départ qui vient bouleverser déjà dès le départ la vie de Sarah, donc de l'astronaute et de la mère de famille qu'elle est. On a aussi déjà une espèce d'anticipation qui se crée. Alors on a la rencontre avec Wendy, la femme qui va s'occuper de Stella, qui doit gérer cette séparation à venir. Donc on a déjà une espèce d'anxiété. Alors d'ailleurs on reviendra là-dessus plus tard, mais dans les premiers dialogues, on a quand même Stella qui demande à sa mère si elle va mourir. On a déjà tout de suite une espèce de une pierre qui est marquée, qui va être une vraie question tout au long du film. Plusieurs fois, les personnages font référence à la dangerosité de ce voyage. Et puis, il va commencer à y avoir un premier éloignement physique, donc une première séparation, comme cette fusée, puisque Stella va devoir déménager chez son père, chez Thomas. Évidemment, il y a un premier éloignement, du coup, physique qui se crée. Un changement de lieu à la fois pour la fille mais aussi pour la mère, puisqu'elle va devoir partir à Star City. Donc les repères commencent déjà à être bouleversés pour les deux, pour la femme et sa fille. Et puis au fur et à mesure, Sarah donc va s'éloigner à la fois à Star City puis ensuite à Baïkonour, et on a ensuite quelque chose d'assez intéressant qui se crée. C'est un espèce de mouvement ou de contre-mouvement, de moments de tension et de relâchement, puisque on le voit tout au long du film, à la fois la femme et la mère et sa fille sont éloignées, et puis de temps en temps, elles se rapprochent, la fille vient voir sa mère dans différents lieux, mais ça ne se passe jamais vraiment comme prévu. C'est tantôt tendu, tantôt relâché, il y a des rendez-vous manqués, il y a des rendez-vous perturbés, hein, par l'entraînement aussi. un moment, le père rate l'avion, et puis c'est sa mère qui doit finalement aller s'entraîner ou participer à une réunion. Donc on a une espèce de difficulté qui se crée à communiquer et à déjouer du coup l'éloignement qui se crée. Et il y a aussi donc cette espèce d'entrelacement pardon, des perspectives et puis et de la libération de la femme, puisque on a à la fois, et c'est ça qui est intéressant à noter, c'est que Alice Wynocourt fait le choix de, évidemment, de parler de son héroïne, de Sarah, mais aussi de donner le point de vue de sa fille, puisqu'on a plusieurs séquences, on le verra un peu plus tard, mais qui sont vraiment à hauteur d'enfant, j'allais dire. Et tous ces moments, c'est à la fois donc la séparation mère-fille, mais c'est aussi les moments où la fille, on va suivre quand même des moments où la fille va devoir s'émanciper, on va voir qu'elle va avoir un nouveau quotidien, elle va observer les enfants, les jeunes enfants qui essayent de venir jouer avec elle, parallèlement, sa mère aussi va devoir nouer de nouveaux liens avec cette équipe, donc avec les hommes. Donc elles sont toutes les deux, elles vont toutes les deux devoir s'émanciper, pardon, se libérer. Voilà, Alice Wynocourt en fait alterne ces deux points de vue, et elle le dit elle-même que pour elle ce film c'est une histoire de libération, je cite, libération d'une forme de culpabilité pour la mère, mais aussi libération de la fille vis-à-vis de sa propre mère. Et à un moment donné, Mike lui dit d'ailleurs dans le film, hein, il faut couper le cordon. Donc il y a une vraie problématique là-dessus. Pareil, on reviendra un petit peu là-dessus un peu plus tard. Et puis aussi sur effectivement la condition de la femme, on y vient juste après, sur tous les enjeux pour les femmes dans ce milieu d'hommes. Bon, on y vient tout de suite d'ailleurs. Et c'est quand même une partie importante du film, puisque en choisissant une femme, une héroïne, comme figure principale, Alice Wynocourt questionne l'accès des femmes à des milieux professionnels dominés par les hommes, par un imaginaire viril, et en même temps elle déjoue aussi certains stéréotypes, ce que je trouve très intéressant, et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs un peu dans tous ses films, si vous avez l'occasion de les voir, c'est qu'elle évite à chaque fois le manichéisme, et ça c'est quelque chose je trouve, de très intéressant. Alors à la fois, Sarah, au début du film d'ailleurs, raconte que sa mère lui avait dit que astronaute ce n'était pas un métier pour les filles, d'emblée la question est posée, on rappelle vraiment le caractère fortement minoritaire des femmes astronautes. Alors j'ai juste pris un petit tableau sur internet, alors ça date de 2024, donc c'est pas très vieux, et ça montre donc le nombre de femmes astronautes par pays en 2024. Alors il y en a beaucoup aux États-Unis, donc 61, mais on voit que dans le reste du monde, il y en a quand même très peu. Ça exclut le tourisme spatial, donc c'est vraiment des astronautes, on va dire, professionnels. Un petit peu plus anciens, mais en 2021, on dénombrait parmi 570 astronautes d'un point de vue mondial, il y avait seulement 60 femmes. Donc on voit très bien quand même la différence qui se crée entre femmes et hommes dans ce milieu-là. Évidemment, on sait que c'est pas uniquement dans ce milieu, malheureusement, mais c'est ici le cas de manière très, très concrète. Donc, on voit aussi que quand elle arrive à Star City, elle est tout de suite, quand elle rentre dans le couloir, elle est accompagnée par une dame qui lui montre les portraits d'autres astronautes, et notamment, alors je vais écorcher son nom, j'essaye à chaque fois de le répéter, et je n'y arrive pas, mais je vais quand même essayer, de la première astronaute qui était russe, Valentina Terechkova. Je vais essayer de leur dire à chaque fois, mais c'est pas dit que j'y arrive. Terechkova, si je le prononce bien, qui était donc la première femme dans l'espace. On va la voir tout à l'heure dans une petite vidéo. Et donc on lui montre son portrait dans le film, et Sarah dit d'ailleurs que ça a été un modèle. Mais on précise quand même, la dame le dit dans le dialogue, que le nom de cette femme a été donné à un cratère sur la Lune, mais un cratère sur la face invisible de la Lune. Ce qui est quand même un détail assez important dans cette histoire d'invisibilisation un peu des femmes. Je vous propose de regarder un court extrait, on ne va pas le regarder en entier, mais un extrait d'un documentaire qui s'appelle Sally, qui est sur une astronaute et astrophysicienne américaine qui s'appelait Sally Ride. Et il y a un documentaire qui passe en ce moment sur National Geographic là-dessus, Alors, c'est un peu plus ancien, ça se passe dans les années 70, mais vous allez voir, c'est assez édifiant. Ça parle du rapport homme-femme à l'époque, à la NASA notamment. Il y a même des propos assez violents, je peux déjà vous le dire. On regarde un petit extrait. Pour vous donner une idée de l'ambiance à l'époque. Bon, c'est assez édifiant. Et en même temps, c'est intéressant, on voit aussi d'ailleurs des images d'archives de ces femmes qui s'entraînent, qui rappellent des images qu'on voit aussi dans le film, quand Sarah s'entraîne. Donc on a ces fameux standards et ce sexisme qui est d'époque, on va dire, mais dans le film, on décrit quand même aussi très bien cette ambiance, en plus, c'est dit aussi ici, les standards vraiment, même physiques, les valeurs, sont calquées vraiment sur un idéal type masculin. L'auteur, alors il y a une auteure qui a écrit un ouvrage là-dessus, j'ai pas noté le titre, sur les femmes astronautes, qui s'appelle Julie Patarin-Josek, et elle qualifie la formation des astronautes comme un processus de masculinisation, ce qui n'est pas totalement faux. Alors ici, on voit dans le film cette espèce de pression que subit Sarah. Il y a à la fois les contraintes biologiques, parce qu'à un moment donné, il y a ce médecin qui lui demande si elle opte pour l'arrêt temporaire de ses menstruations, et bien que, alors pour eux, l'objectif, c'est l'efficacité maximale, ça implique quand même de négocier le caractère purement féminin, biologique. Le médecin d'ailleurs lui signale dans le film que le poids des tampons sera déduit de son quota de bagages. Donc ça montre bien que l'institution ne s'adapte pas à la biologie féminine. Et puis il y a aussi toute une série de stéréotypes, hein, de pressions, de par le personnage de Mike, évidemment c'est assez flagrant. Le personnage de Mike, on le voit, même s'il va évoluer, au départ, il y a toutes ces remarques sexistes sur le fait qu'elle va pouvoir faire la cuisine ou qu'elle devrait faire un entraînement plus allégé. Donc il y a cette espèce de tension. Et puis on sent aussi l'entre-soi, hein, masculin, quand ils sont entre hommes et qu'il y a toutes ces moqueries, etc. Donc il y a une espèce de tension qui se crée pour Sarah, et aussi de problèmes de légitimité. Comme de nombreuses femmes, d'ailleurs, dans des milieux masculins, elles doivent faire preuve, elles doivent faire leur preuve, sans craindre en essayant de ne pas craindre le jugement des hommes, et ici de Mike. Et d'ailleurs, historiquement, pour la petite anecdote, mais même les combinaisons, c'est assez récent, les combinaisons pendant très longtemps, les combinaisons spatiales étaient uniquement basées sur des standards masculins et ne s'adaptaient pas du tout à la morphologie féminine. Et puis il y a évidemment le fait aussi, et je vais vous montrer une autre petite vidéo rapide, sur le statut de mère et d'astronaute, on en parlait tout à l'heure, mais ça reste, et puis aussi dans d'autres domaines, une espèce de barrière parfois pour certaines femmes, l'espèce de difficulté de concilier à la fois les exigences de ce métier et la maternité, qui est malheureusement la plupart du temps perçue comme une faiblesse. L'astronaute dont je vous parlais tout à l'heure, Annalie Fischer, explique qu'elle aussi, elle a dû très clairement, très très vite revenir travailler et se montrer impliquée à la NASA suite à son accouchement pour éviter que sa condition de mère soit considérée comme un obstacle. Donc cette espèce de charge sociale, il y a aussi la charge sociale de l'éducation qui revient encore beaucoup, qui est un combo femme et qui crée une espèce de double pression sur Sarah. Et d'ailleurs dans le film, elle le dit un moment parce qu'elle reproche à Mike, enfin elle dit à Mike, quand Mike lui dit qu'il faut couper le cordon, elle lui dit « t'as aucune leçon à me donner puisque c'est ta femme qui s'occupe des enfants pendant que tu t'en vas ». Donc il y a cette espèce aussi de culpabilité de l'absence qui peut se créer pour cette mère. Il y a ce côté où ce métier peut être incompatible. Mais je voulais vous montrer une petite vidéo que j'ai récupérée sur le site de la Cité de l'Espace de Toulouse, avec plusieurs petits témoignages, ça dure 3 minutes, 3 minutes 30, des témoignages de femmes astronautes qui, justement, abordent précisément les problématiques auxquelles elles peuvent faire face, à la fois au niveau de leur vie de mère et leur vie d'astronaute. Et je trouve que, d'ailleurs, c'est assez émouvant, c'est assez bien fait. À la fin du film, les photos des femmes astronautes, etc., ça montre aussi tout ce travail-là. Et je voulais quand même revenir rapidement sur ce que je disais tout à l'heure, sur les personnages masculins, qui ne sont pas tout à fait manichéens, et c'est, je trouve, une chose importante aussi dans son cinéma. D'abord, on a le personnage de Thomas, du père. Alors, on sent au départ qu'il y a une espèce de tension entre eux, hein, à la fois sur la garde de Stella, et puis une rivalité aussi professionnelle. Le père lui dit à un moment, j'ai toujours une planète d'avance sur ta mère. Mais cependant, on observe quand même que le personnage est un réel soutien, un soutien essentiel pour Sarah dans sa quête spatiale. C'est lui qui la remet en selle, même quand elle craque à un moment donné, et qui évidemment s'occupe aussi de sa fille, qui s'occupe de faire le relais, donc il est aussi présent. Et même le personnage de Mike, qui au départ est un vrai antagoniste, hein, qui incarne réellement le sexisme, il évolue quand même au long du film, il devient plus attentionné. Il y a un moment assez crucial où il rassure Sarah, il la prend dans les bras lorsqu'il lui dit qu'il n'y a pas d'astronaute parfaite comme il n'y a pas de mère parfaite. Il y a aussi ces moments où ils partent, à un moment ils doivent dormir à la Belle Étoile, et puis on voit que Mike se met à réciter un poème, donc on dévoile une corde un peu plus sensible à cet être qu'on pensait extrêmement sexiste et assez... avec une virilité quand même très démonstrative. Et il y a une espèce de complicité, hein, même quand ils partent dans le magasin ensemble, ils se tiennent compagnie, il y a une espèce de complicité qui se crée entre les deux. Et je trouve ça intéressant de la part d'Alice Winocourt de mettre ça en avant. Autre point intéressant aussi, qui est un peu plus en creux dans le film, mais quand même qui pose cette question, c'est le corps, la mutation du corps, et toute l'humanité aussi qui se questionne derrière. Puisqu'on a le motif qui revient régulièrement de l'entraînement de ces astronautes et de ces corps qui sont poussés à bout, et c'est aussi un motif qui revient souvent dans le cinéma d'Alice Winocourt, notamment dans son premier film Augustine. C'est quelque chose d'assez essentiel dans le film, c'est ces corps à la fois blessés, ces corps mutilés, ou ces corps en tout cas soumis à des pressions. Dès le début du film, on voit Sarah appareillée, hein, à la fois avec un masque pendant l'entraînement, on la voit avec l'exosquelette en train de s'entraîner, avec les harnais aussi en train de courir à la verticale. Quand elle est à Star City, on a aussi des plans qui montrent le corps des astronautes et qui sont vraiment renvoyés à un pur objet chiffrable. On voit les techniciens qui prennent des mesures, les tours de crâne, les distances des bras, les tests externes et internes, on fait aussi des prises de sang. Donc on a cette analogie un peu avec, vous le savez, alors je n'ai pas mis d'ailleurs l'illustration, mais ce qu'on appelle l'homme de Vitruve, donc le dessin de Léonard de Vinci avec cet homme dans le cercle, les proportions de cet homme. On a ce côté de ce corps mécanique et de ce corps qu'on cherche parfait. Alice Winocourt dit « Je suis fasciné par les corps cobayes. D'une certaine manière, les astronautes doivent muter. Ils doivent devenir des space persons. Je tenais énormément à filmer cette mutation. » Le mot est prononcé donc dans le film, hein, space person aussi, puisque ici, l'objectif, c'est la performance, voire même la mutation. Sarah écrit à un moment donné dans le film sur son blog, donc elle écrit « Je deviens une space person » et elle décrit un corps transformé qui doit s'adapter aux conditions de l'espace, des conditions qu'elle appelle inhumaines. Donc on est en dehors de notre condition de simple mortel. Elle dit que dans l'espace, on n'a plus de poids, on n'a plus de transpiration et les larmes ne coulent plus. Ici, le corps de Sarah doit devenir en tout cas un corps hybride, à la fois augmenté par la technologie, donc on voit cet exosquelette, ces combinaisons spatiales, et puis soumis aussi à des conditions extrêmes, avec, on le disait tout à l'heure, la centrifugeuse ou cette espèce d'exercice de survie sous l'eau. Et donc en creux de ça, on a la question de la fragilité du corps, hein, qui vient se poser, puisque dans ce processus de mutation, on suggère aussi quelque chose d'assez paradoxal, c'est qu'en visant cette espèce donc, de surpuissance, l'astronaute, et Sarah notamment, fait l'expérience de la fragilité humaine. Puisque alors, notamment quand elle sort de cette centrifugeuse, elle vomit, elle perd connaissance lors de l'exercice sous l'eau, elle a aussi une blessure à la jambe qui ne cicatrise pas, et on vient rappeler à travers tout ça la fragilité dans cette quête de perfection, la fragilité du corps humain, et que face à cette pression, alors d'ailleurs Mike le dit à un moment donné, il dit « nous ne sommes pas des robots », et c'est une phrase qui prend quand même un poids particulier. Alors cette quête de l'augmentation de l'humain, c'est ce qu'on appelle donc le transhumanisme, donc qui voit la possibilité de transcender les limites biologiques du corps. La définition dans le dictionnaire du transhumanisme, c'est le courant de pensée selon laquelle les capacités physiques et intellectuelles de l'être humain pourraient être accrues grâce aux progrès scientifiques et techniques. Donc on parle d'être humain augmenté. et mais en mettant voilà, en avant la chair et l'attachement aussi à l'humanité de Sarah, et notamment quand on voit qu'elle refuse d'arrêter ses menstruations, et puis les plans aussi sur son corps, hein, parce que plusieurs fois, Alice Nocourt vient chercher des plans quand elle se prépare, quand, même avant le départ, quand elle a cette douche de bétadine, on vient filmer son corps nu, on vient se rapprocher de la chair pour contraster avec cette idée de recherche du corps parfait, on va dire, de ce corps d'astronaute. Et donc on interroge aussi par ici ce qui pourrait un peu se retourner contre cette idée d'humanité. Ce n'est pas le sujet principal du film, mais je trouve que c'est intéressant d'aller creuser aussi cette piste-là, parce qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser pour les élèves aussi d'un point de vue pédagogique, il peut y avoir pas mal de choses à aborder. Un mot sur la mise en scène et comment relier et montrer ce dialogue à distance, et notamment via le montage. Dans quasiment toutes mes présentations, je parle quasiment toujours de montage, puisque c'est l'essence même justement du dialogue et du langage du cinéma. Et ici, on a ce dialogue qui va devoir s'installer malgré la distance. Alors la relation passe au départ par des intermédiaires technologiques, puisque quand Sarah s'éloigne, elle va devoir contacter sa fille à la fois par le téléphone, il va y avoir des échanges de vidéos, hein, on la voit avec sa GoPro, il y a des images faites au téléphone, et aussi d'ailleurs à travers des lettres, hein, puisque effectivement les astronautes sont obligés d'écrire une lettre à leurs proches avant de partir. Et ici le montage s'attache vraiment à rendre sensible cet espace entre les deux femmes. Il y a une division mentale qui se crée pour le personnage de Sarah, puisque il y a évidemment à la fois le fait de devoir continuer à s'entraîner et en même temps de garder le lien avec sa fille. Donc elle doit effectuer deux choses en même temps. À un moment donné, on la voit en train de s'habiller puis de parler au téléphone avec sa fille, ce qui la ralentit, la fait arriver en retard à l'entraînement et la fait être renvoyée de son entraînement. Il y a aussi, de manière, je trouve, très subtile, très bien faite, quand on revoit le film, on s'en aperçoit un peu plus, c'est ce montage et cette superposition d'images et de sons qu'Alice Winocourt fait à plusieurs moments, et notamment, donc, elle utilise le montage. Alors, il y a par exemple ce moment d'entraînement où Sarah est en train de s'entraîner avec un casque de réalité virtuelle, et on voit des images dans l'espace, hein, elle est déjà ailleurs, mais grâce au montage, le son, lui, est celui d'une conversation téléphonique entre Sarah et sa fille, où elle lui explique qu'elle a des problèmes de maths, etc., qu'elle n'arrive pas à faire ses devoirs. Donc, on a une espèce comme ça, à la fois de dissonance dans le point de vue, et en même temps de montrer que le dialogue se maintient quand même dans cet univers. Et le fait de superposer comme ça les deux, c'est quelque chose d'assez malin, et ça permet de raccorder tout ça. Alors en plus, ça tombe à un moment où Stella lui dit « Maman, tu me manques », au moment où on voit cet espace et on voit cette combinaison à flotter. Et il y a aussi la question de la difficulté, hein, du langage et la difficulté de communiquer qui se crée. Il y a aussi un autre moment dans le film où, pareil, quand elle est au téléphone avec sa fille lui parle en allemand. Elle lui dit « Mais pourquoi tu me parles en allemand? Parle-moi en français. » Ben non, en fait, le dialogue est brouillé. On voit cette difficulté aussi de continuer à communiquer avec tout ça. Et il y a ce blog que Sarah tient tout au long du film, et on l'entend aussi, lire la lettre qu'elle écrit à Stella. C'est un moyen de maintenir le lien aussi, et le montage relie comme ça ces deux mondes, et notamment à un moment donné, on voit dans des vidéos tournées au téléphone, on voit des enfants sur un manège, et juste après, on voit Sarah toujours sur un siège de centrifugeuse en train de s'entraîner, donc on a un lien qui se crée. On voit aussi Stella en train d'apprendre à faire du vélo sans les petits trous, donc on a aussi cette idée de Stella qui est en train de s'éloigner au fur et à mesure, qui est en train de prendre, tout à l'heure on en parlait, de s'émanciper, pendant que sa mère, elle aussi, est en train d'avancer vers l'espace. Il y a d'abord entre ciel et terre, effectivement, puisque le film est aussi traversé par toute une série de contrastes que je trouve très intéressantes sur l'ancrage de l'humain, l'ancrage de Sarah, dans la terre, avant de partir vers l'espace. Elle exprime dans sa lettre, elle dit « Je m'entraîne depuis si longtemps à quitter la terre, et maintenant qu'il est l'heure de partir, je ne me suis jamais senti aussi attaché à elle. » Donc l'éminence vraiment du départ lui fait sentir sa condition d'humaine. Elle dit aussi à un moment donné qu'elle fait plus attention à l'odeur des gens, au goût des choses. Donc il y a ce côté, je crois que Alice Winocourt en parlait dans la première interview, mais ce côté où de réaliser cet éloignement, ça permet de se rendre compte en fait de notre condition d'être humain. Il y a aussi la présence dans le film de la nature qu'on voit beaucoup, et notamment on voit beaucoup de scènes dans la forêt, quand ils s'entraînent et qu'ils sont à la Belle Étoile, quand ils partent aussi avec Sarah, avec sa fille Stella pour relâcher les tritons. Il y a plein de petits passages, et puis ce moment, je trouve assez incroyable quand Sarah revient d'un exercice d'atterrissage et qu'elle vient rejoindre sa fille, et on voit Sarah à un moment donné, en combinaison spatiale, partir dans l'eau et au milieu de cette nature magnifique, ça dénote complètement avec le paysage. Elle est à la fois déjà ailleurs avec sa combinaison et en même temps elle est toujours là, bien ancrée sur la terre. Et puis il y a aussi, alors c'est un peu secondaire, mais il y a aussi la présence des animaux, mine de rien, puisqu'on a les chevaux qu'on retrouve à la fin qui sont assez symboliques, on a le chat aussi qui est là, et Stella s'occupe de la chatte qui s'appelle, j'ai oublié, je l'ai noté, Leïka, merci. Et qui s'occupe d'elle un peu comme une mère, justement, s'occupe de sa fille. Elle prend déjà presque un peu le relais sur sa mère. Donc on a aussi la notion de vivant qui est très présent et qui est aussi incarné. Et puis la perception physique, on le voit tout à l'heure, j'en parlais, mais de tout ce côté technologique, puisque quand Sarah utilise cette GoPro pour filmer sa chambre, pour filmer aussi son entraînement, à un moment donné, on voit que la caméra est posée sur le torse et elle est en train de courir. On entend sa respiration, on a ces images faites au téléphone, on a cette image qui est un peu dégradée, on est proche des visages, on a quelque chose qui n'est pas, des fois des images un peu floues, qui sont mal cadrées, qui viennent aussi souligner ce côté comme ça, très, très imparfait, au final très humain, très proche de l'humain, qui est mis directement en image. Et qui, quand on entend comme ça la respiration de Sarah et que on voit quasiment de son point de vue, d'ailleurs même à la fin, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand elle monte dans la fusée à la toute fin, tout est filmé via une GoPro aussi qu'on imagine attachée quelque part sur sa combinaison. Et on est vraiment, et c'est ce que fait souvent Alice Winocourt, et on va y venir juste après, mais dans l'anti-spectaculaire. C'est un choix délibéré évidemment d'Alice Winocourt. Et là, ce moment qui, dans plein de films sur l'espace américain, on aurait pu voir, et on l'a déjà vu, des astronautes s'avancer au ralenti vers la fusée en faisant coucou à tout le monde, etc. Là, on choisit de le filmer de manière quasi aussi documentaire. D'ailleurs, j'avoue que je ne suis pas sûr si c'est une scène qui a... Ça, j'ai pas trouvé la réponse, si c'est une scène qui a été mise en... si ça a été mise en scène ou si c'est une vraie vidéo prise par un astronaute, j'ai un doute. En tout cas, on voit cette image un peu imparfaite, on ne voit même pas Sarah au final. Donc on est au plus proche du corps, au plus proche de l'humain dans ce moment pourtant de tension où on va partir vers l'espace. Et donc, un mot rapide sur la singularité du film spatial et de ce film-là en particulier. Même si à la fin je mets toujours des films, les films rebonds, j'appelle ça, ou les films miroirs. Je vous ai mis plein de films sur l'espace parce que mine de rien il y a toujours plein de choses à raconter, mais ici Alice Winocourt elle choisit très clairement de faire de l'anti spectaculaire justement et d'être au plus proche, et notamment c'est quand même pas rien de parler d'espace sans le montrer quasiment, puisque tout le film se passe avant le décollage, ce qui est assez rare pour un film spatial. Alice Winocourt dit aussi, je cite, dans les films américains, il y a régulièrement l'idée que la Terre est un espace désolé et qu'il faut donc aller coloniser l'espace. J'ai voulu inverser le regard et montrer l'attachement à la Terre. Je pense que c'est très réussi dans ce film-là. Et comme je le disais, donc contrairement à d'autres films, alors vous verrez, j'en ai cité plusieurs à la fin, mais on a Gravity, Interstellar, Ad Astra, First Man, etc., qui sont des films américains sur l'espace, qui sont pour certains très intéressants, c'est pas le problème, mais qui ont ce côté souvent un peu psychodramatique et puis très spectaculaire, parce que souvent on va très vite se projeter dans l'espace et on est souvent plutôt proche d'un film d'action, on va devoir sauver une situation, faire face à un danger imminent, Voilà, on est très, très clairement à l'inverse ici dans Proxima. Alors il y a quand même des films, j'en ai mis un notamment Lucy in the Sky, avec même First Man aussi d'ailleurs. Lucy in the Sky, c'est avec Natalie Portman qui est intéressant parce que c'est un film miroir, c'est-à-dire que le film commence par un atterrissage justement sur Terre et une astronaute qui revient de l'espace et qui a du mal à se déconnecter de l'espace et qui a du mal à revenir sur Terre justement. C'est, je trouve, un film intéressant à voir. Un mot sur le personnage de Stella et sur l'enfance, qui est quand même très important ici dans le film. Puisque, donc, on le disait, hein, Stella, c'est le, entre guillemets, le deuxième personnage principal. Et elle met en avant vraiment la singularité de l'enfant et son point de vue. Puisque beaucoup de scènes, comme je le disais, sont filmées à hauteur d'enfant. Et on se trouve très rapidement à distance des adultes. Plusieurs fois, la caméra est braquée sur elle et on entend les conversations des adultes en off, mais on s'intéresse plutôt au regard de cet enfant et à ce qu'elle fait en dehors de cet univers qu'elle connaît pourtant très bien. On le voit au début du film, elle connaît les étapes de lancement d'une fusée, et puis elle a ses deux parents qui travaillent là-dedans, donc on sent qu'elle est baignée dans cet univers et en même temps qu'elle reste un petit peu... En dehors de tout ça, il y a aussi la scène où Sarah est interviewée par des journalistes et on vient plutôt s'intéresser à Stella en train de s'occuper de son chat et de son point de vue. Il y a aussi une très très belle scène quand elle déambule dans l'Agence spatiale européenne et qu'elle est comme ça face à ces images gigantesques de l'espace et sur cette représentation de la Lune, et elle paraît complètement... étrangère à tout ça, toute petite par rapport à ça, et elle dénote complètement avec cet univers immense à travers ses yeux d'enfant. Alors la jeune fille qui interprète Stella, elle s'appelle Zélie Boulan-Lemel, c'est son seul film, et Alice Winocourt dit qu'elle l'a choisie parmi 300 petites filles quand même, pour son étrangeté, justement, l'étrangeté de son regard et un peu sa sauvagerie. Et c'est vrai qu'elle a... Ce côté, et je l'ai mis tout en retenue, elle est assez difficile à déchiffrer, elle pleure peu, elle pleure une fois, je crois, dans une scène, elle rit peu aussi, en tout cas, ses émotions sont assez difficiles à décoder, et il y a une espèce de pudeur qui se crée, et c'est un piège dans lequel ne tombe pas Alice Winocourt. C'est souvent dans le cinéma, les enfants servent de véhicule pour, en fait... communiquer des sentiments, les sentiments d'adultes ou des sentiments très précis. Ce que ne font pas en fait toujours les enfants. Et ici, elle choisit de traiter vraiment cet enfant, de traiter Stella comme un personnage comme ça, un peu opaque. On a, je trouve, un peu de mal à... on ne peut pas vraiment s'identifier à elle, même si de temps en temps on est de son point de vue. Mais il y a cette espèce de retenue chez ce personnage qui est intéressante. Et on voit quand même, effectivement, pourtant sa familiarité avec tout ça et la difficulté qu'elle a, justement, à se baigner dans cet univers précis. Pour le fait qu'elle n'était pas cantonnée à sa fragilité d'enfant et qu'elle était toute... qu'on restait de son point de vue. Il y a aussi, ce que je trouve très intéressant, c'est ce plan de fin qui est très beau. On voit à un moment donné dans le film que Stella a dans sa chambre ses photos, ses posters de chevaux figés. Et ce moment suspendu, alors à la fois il y a ce moment du décollage de la fusée, hein, où Sarah est partie, et on retrouve d'ailleurs plein de personnages du film, parce qu'on retrouve aussi la femme de Mike, on retrouve la dame de Star City qui est là, et tous ces regards se tourne vers l'espace, et on a une espèce de communion qui se crée parmi tous ces personnages qui regardent tous au même endroit. Donc on a clairement quelque chose qui devient universel, on n'est plus centré uniquement sur la mère et sa fille, on a un point de vue comme un panel humain qui va regarder cet exploit et cette scène de fin dans le bus avec Stella qui finit par voir par la fenêtre avec ce sourire qu'elle a, elle voit la lettre, elle garde la lettre de sa mère contre son cœur, et ces chevaux qui apparaissent de manière un peu magique, qui sont symboliquement, je trouve, il y a l'idée de lâcher les chevaux, c'est-à-dire elle est enfin, elle peut se libérer totalement. Sa mère est partie, elle aussi, elle part vers un nouvel horizon, vers un nouveau, de nouvelles aventures, j'allais dire. Et je trouve ça assez poignant. J'en ai pas parlé parce que c'est pas précisé, enfin, en tout cas, c'est pas abordé dans les thématiques du CNC, mais moi je trouve, ça me parle quand je vois le film, je sais pas si vous vous faites la même réflexion, il y a également, je trouve, un écho, enfin une lecture qu'on peut avoir de tout ça autour de la perte d'un proche aussi. On a quand même cette mère dont on doit se détacher, qu'on doit presque pas oublier, mais en tout cas qui va devenir, en tout cas pendant quelques mois ou années, un souvenir. Et cette mère qui part comme ça, qui s'envole, on dirait une étoile à la fin, hein, cette fusée, qui s'envole vers le ciel, et cette fille qui a peur, elle le dit au début du film, est-ce que tu vas mourir ? Je trouve qu'il y a une espèce de parallèle aussi autour du deuil, autour de la séparation d'un être cher. J'ai pas creusé la piste outre mesure, mais en tout cas, je trouve que c'est une lecture qu'on peut avoir aussi du film, qui peut être intéressante. Bon, j'avais préparé, mais on n'aura pas le temps, j'avais préparé une petite analyse de séquence, mais je vous la fournirai de toute façon dans le PDF. La séquence où Stella assiste à la réunion avec sa mère, et puis elle finit par s'échapper. Et on voit dans cette séquence, justement, elle illustre très bien la relation mère-fille, la difficulté pour la fille aussi d'accepter tout ça, et la difficulté de communication. À un moment donné, on voit Stella qui est sous la table pendant que sa mère est au-dessus, et elles essayent de se toucher la main, elles essayent de se parler. Il y a déjà, ça préfigure déjà ce qui va se passer un peu plus tard, hein, le départ de sa mère, et le fait que le fait de couper le cordon est difficile, hein, elle s'échappe, sa mère la cherche, elle la gronde. La petite fille s'énerve, hein, lui dit « pars ». Donc il y a, en fait, de résumer un peu dans cette scène, un peu tout le schéma du film. Donc je trouve que c'est une séquence intéressante. Donc je vous fournirai l'extrait, puis avec des pistes d'analyse, les références et rebonds. Alors, j'ai mis en premier le film de Wim Wenders, « Alice dans les villes ». C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Alice Winocourt qui le dit, c'est un de ses films référence pour ce film-là, avec l'histoire d'un photographe aux États-Unis qui se retrouve à devoir s'occuper d'une petite fille qui n'est pas sa fille, mais il va devoir s'occuper d'elle, et ils vont tous les deux un peu errer dans les rues aux États-Unis. J'ai pas eu le temps de voir le film, malheureusement, mais c'est visiblement une source d'inspiration assez forte pour nos deux personnages de Proxima. J'ai voulu mettre quand même Premier Contact. Pourquoi ? Alors ensuite, tout le reste, c'est des films sur l'espace. Ils ont tous quand même un regard, même si c'est une approche totalement différente de Proxima, mais ils ont tous un regard intéressant sur l'espace. J'ai voulu mettre Premier Contact. Il n'a pas grand-chose à voir, en fait. Enfin, si, il a des liens avec Proxima, mais c'est un film assez différent. L'année dernière, j'ai fait une formation sur Premier Contact et j'avais mis Proxima dans le film rebond. Donc ça me semblait logique de faire l'inverse. Premier Contact, c'est un film vraiment purement de science-fiction, mais qui partage quand même certains points de vue, notamment le fait qu'on a une héroïne jouée par Amy Adams, qui est une mère de famille aussi. Il y a tout un questionnement sur la maternité aussi dans ce film-là, même si c'est d'un autre point de vue. Ça se passe, je dévoile pas le film, en plus un peu complexe, mais je vous conseille très vivement de voir ce film qui est, je trouve, un chef-d'œuvre. Et puis il y a aussi la question dans ce film de la difficulté du langage, qui est là aussi pour une autre raison, mais la difficulté de communiquer avec l'autre et de une séparation aussi avec l'autre. Donc il y a des thématiques communes que je trouve intéressantes. Lucy in the Sky, j'en parlais tout à l'heure avec Nathalie Portman, parce que voilà, c'est un film un peu miroir, je trouve, qu'il se passe dans les années 70, si je ne me trompe pas, sur donc une femme astronaute qui revient sur Terre et qui a, elle, au contraire, du mal à quitter l'espace. L'astronaute, un film français qui est pas inintéressant aussi, de Nicolas Giraud, c'est tout récent, et qui a aussi un peu la même approche que Proxima, parce que c'est un film qui évite le spectaculaire, même si, sans vouloir, non, je vais peut-être pas spoiler, je sais pas, mais j'allais vous dire la fin du film, mais on va éviter peut-être, mais en tout cas, la majeure partie du film reste assez proche du traitement de Proxima, parce qu'on est vraiment... c'est l'histoire, en fait, d'un homme qui travaille déjà dans une agence spatiale et qui rêve de construire sa propre fusée et de faire le premier voyage dans l'espace par un particulier, en fait, avec sa propre fusée. Donc il va essayer de construire sa fusée. Est-ce qu'il va réussir à aller dans l'espace? Je ne vous le dis pas. En tout cas, il a un peu le film a un peu la même approche. C'est réalisé et joué par Nicolas Giraud, avec Mathieu Kassovitz aussi. Cette approche assez réaliste et concrète du quotidien d'un homme, ici un homme, qui rêve de l'espace et qui veut partir. Et puis, bon, là, des films un peu emblématiques de la conquête spatiale. Il y en a d'autres, hein, évidemment, mais je vous ai mis les plus parlants, en tout cas ceux qui peuvent se rapprocher un peu de Proxima. Ad Astra, donc, avec Brad Pitt. First Man, qui est un biopic sur Neil Armstrong et sur... c'est intéressant aussi parce qu'il y a toute une réflexion. Neil Armstrong qui avait perdu sa fille d'une leucémie, je crois, si je ne me trompe pas, et qui, quand il se retrouve sur la Lune, en fait, pense à sa fille. Il y a tout un montage comme ça là-dessus. Donc il y a des pistes aussi intéressantes de ce côté-là. Gravity aussi, évidemment, d'Alfonso Cuarón, avec tout un questionnement sur la maternité aussi. Donc ça reste un film référence. Et puis Interstellar. C'est encore plus compliqué, Interstellar, j'imagine, certains ont dû le voir, j'imagine. Il y a plein de problématiques dans ce film-là, très intéressantes, mais il y a aussi le fait de quitter la Terre et le dialogue avec son enfant. Donc on peut y trouver beaucoup de points communs. Je mets en général, vous aurez aussi, je ne vais pas la montrer parce qu'elle est trop longue, mais je mettrai vous avez une vidéo qui est faite par le CNC directement, qui propose une petite analyse autour de Proxima, qui résume certaines choses que j'ai dit, et d'autres pas, mais ça dure 4-5 minutes. Je vous la fournirai aussi. Et puis, je propose toujours quelques pistes pédagogiques de questions que vous pouvez soulever avec vos élèves. Alors, il y en a d'autres. J'en ai mis certaines, j'en mettrai probablement un peu plus dans le document que je vous donnerai. Mais sur les questions qu'on peut se poser, donc les choses dont on a parlé, hein, quelles sont, donc c'est que les élèves puissent parler des différentes étapes de l'éloignement. Comment on filme et on montre cette séparation, et pourquoi ce double point de vue de la mère et de la fille est essentiel. Et puis aussi le film spatial, hein, est-ce que les élèves ont vu d'autres films là-dessus, ce qu'ils pensent justement du film spatial, comment ils l'imaginent, en tout cas quels sont un peu les stéréotypes autour de tout ça. Qu'est-ce qu'évoque aussi le titre, hein, pour eux, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et puis, bien évidemment, la condition de la femme, je pense que c'est un sujet intéressant. Je m'aperçois que je n'ai pas mis, mais je le mettrai dans les autres questions, la question du transhumanisme, etc. Mais je pense que la question de la femme astronaute est quand même essentielle. Donc les difficultés que rencontre Sarah, hein, essayer d'analyser avec les élèves toutes les difficultés auxquelles elle est confrontée. Comment décrire ses rapports avec le reste de l'équipage, avec sa fille, et puis avec aussi les autres documents que vous avez. Je pense qu'il y a pas mal de questions, même autour de l'histoire. Et d'ailleurs, au niveau de la condition de la femme, on peut aussi évidemment tirer le fil sur d'autres... ça se passe pas que dans le milieu de l'aérospatial, évidemment, malheureusement. Voilà, j'en ai fini. J'ai essayé de... Il est